BFM Radio.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'affaires suivantes, c'était il y a 31 ans, quasiment jour pour jour, le collège Pierre Brossolette de la Chapelle Saint-Luc, près de Troyes, basculait dans l'horreur. Il était 13h40 quand le gardien découvre l'inimaginable. La proviseure, Denise Descaves, gît sur le dos dans son bureau, un cordon de téléphone autour du cou, un coupe-papier enfoncé dans le cœur. En pleine vacances de Pâques, le collège était quasiment vide. Alors, qui a bien pu s'en prendre à la principale? Après avoir étudié de multiples pistes, un homme sera condamné à 3 reprises. Pierre Dubois, psychologue du collège, 31 ans après, ses soutiens continuent de crier à l'erreur judiciaire. On va rouvrir l'enquête dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur ce 21 avril 1993 avec Elisa Trad.
Avez-vous savé, pendant les vacances, l'événement dramatique qui a endeuillé notre établissement?
Le 21 avril 1993, alors que les élèves étaient en vacances, Denise Descaves, directrice d'un collège dans l'Aube, a été retrouvée morte dans son bureau. Le fil du téléphone enroulé autour du cou, le coupe-papier planté dans la poitrine. La principale a été assassinée à l'heure du déjeuner, alors qu'elle avait l'habitude de travailler seule. Exigeante, elle était surnommée la colonelle, mais le recteur d'académie ne lui connaissait pas d'ennemis.
Il y a bien entendu des difficultés, nous sommes dans un établissement qui est en zone d'éducation prioritaire, mais aucun problème particulier n'a été signalé au cours des dernières semaines.
Pas de problème avec les parents?
Non, ni problème avec les parents, ni avec les élèves.
Les enquêteurs entendent le jardinier menacé de mise à pied. Ils suspectent un moment un toxicomane qui a confié à des proches avoir tué une femme. Il aurait pu en vouloir à la directrice de mener une enquête sur le trafic de drogue dans le quartier, mais il est relâché. Reste le directeur de la section d'études spécialisées du collège. Pierre Dubois et Denise Descaves ne s'apprécient pas. Et justement, sur la scène de crime dans la poubelle, un rapport au vitriol sur le psychologue scolaire a été retrouvé déchiré en petits morceaux. Après des aveux en garde à vue, il assure finalement qu'à l'heure du crime, il se trouvait en voiture avec femme et enfant. Un alibi difficile à confirmer, l'heure de la mort n'étant pas suffisamment précise. Clamant toujours son innocence, Pierre Dubois a été jugé 3 fois pour le meurtre de Denise Descaves et condamné à 3 reprises à une lourde peine.
On va se replonger dans cette enquête avec nos invités. Philippe Sarda, bonjour. Merci beaucoup, maître, d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille de Denise Descaves. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Ravi de vous retrouver, journaliste, l'heure du crime sur RTL, évidemment, tous les jours. Merci à vous deux d'être là. D'abord, comme dans beaucoup d'affaires, Jean-Alphonse, en commençant par la scène du crime. Là, elle est très, très, très particulière. Elle mérite véritablement de s'y arrêter parce qu'elle choque.
Ben oui, elle choque. On est dans un établissement, dans cette petite ville, un établissement qui est en zone d'éducation prioritaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement des élèves qui sont parfois difficiles. Et puis, il y a un grand couloir. On est pendant les vacances, il n'y a pas grand monde. Il y a un jardinier qui est affairé dans le jardin. Il y a quelques ouvriers maçons qui réparent un mur. Et puis, il y a une dizaine de personnes du personnel qui sont là, un peu disséminées dans le collège. On est à l'heure du déjeuner. On est autour de 13h, 13h30. Et Denise Descaves est toute seule dans son bureau. Elle a décidé de travailler sur des dossiers. Et puis, le concierge va passer quelques minutes plus tard, une demi-heure plus tard. Et puis, il va s'apercevoir que la porte de Denise Descaves est entrouverte. Donc, ça ne lui ressemble pas à Denise Descaves. Elle travaille en général en solo. Ça ne lui ressemble pas. Il va pousser la porte et là, il va apercevoir tout de suite une chaussure qui est sur le sol, un pied qui dépasse et puis le corps de Denise Descaves. Elle a été étranglée. Et puis, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'elle a un coupe-papier qui est planté dans le cœur. Donc, évidemment, l'attaque, elle a été brutale, elle a été très rapide, et le bureau est en désordre, il y a eu comme une lutte, elle a résisté, la proviseure. Et on va trouver dans une poubelle un rapport, qui est un rapport disciplinaire, avec effectivement... un nom qui est cité.
Qui nous amènera à Pierre Dubois, on va y revenir.
Dont on va parler.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette scène de crime absolument horrible, le cordon de téléphone autour du cou, le coupe-papier. On a maître des horaires assez précis, parce qu'elle a une assistante qui va aller déjeuner. C'est-à-dire qu'on a une idée très précise de l'heure à laquelle elle a été tuée. Et ce sera important.
Absolument, et ça a eu une importance négative, puisqu'on sait qu'elle est seule à partir de midi, et de mémoire, le corps est retrouvé vers 13h40. Or, on a un médecin légiste qui va fixer l'heure de la mort à partir de 13h45. Donc, il va commettre une erreur, ça arrive. Mais ça, c'est l'importance négative. L'importance positive, c'est que dans le cadre des investigations, une remise en situation sera faite quelques années plus tard et va permettre de dégager les créneaux très précis, à peu près 10 minutes, durant lesquels le crime a pu être commis.
Ça, c'est fascinant parce qu'on verra que 10 minutes suffisent à tout d'un coup réintroduire un suspect qui avait été mis de côté au début et finalement qui revient dans le jeu. Il faut dire ce qui est, c'était une femme de caractère, Denise Descaves, on la surnommait parfois la colonelle. C'était une femme pas facile. Du coup, on se dit, elle peut avoir des ennemis.
C'était une femme qui avait un très fort caractère, alors qui d'un côté était vraiment respectée par la plupart de ses collaborateurs, mais qui, c'est vrai, à partir du moment, comme on dit, où elle avait quelqu'un dans le nez, ça pouvait prendre des proportions assez redoutables, et c'est ce qui se passait, c'est ce qui était en train de se passer avec Pierre Dubois.
Comment elle s'y prenait? Quelles étaient ses méthodes, Jean-Alphonse? Après, on rappelle qu'elle était dans un quartier prioritaire où il fallait aussi faire preuve d'autorité pour que ça fonctionne.
Alors, il faut savoir que dans ce établissement, il y avait pas mal de trafic de drogue. Elle veillait beaucoup là-dessus. Et effectivement, de manière assez rigide. C'est une ancienne prof de gym, Denise Descaves. Elle a une poigne de fer, c'est-à-dire qu'elle ne laisse rien passer. On la craint, c'est une évidence. Elle a rappelé à l'ordre beaucoup, beaucoup d'élèves. Et même au sein du personnel, c'est-à-dire des collègues, des enseignants, parfois on s'en méfie un petit peu parce qu'elle est très raide et assez cassante. Et c'était le cas avec Pierre Dubois.
Alors, Pierre Dubois, psychologue. Oui. De l'établissement, sur qui elle était en train de préparer ce fameux rapport de notation qu'on retrouve dans la poubelle.
Oui, ils se sont accrochés avec Pierre Dubois, ils ne sont pas d'accord sur certaines méthodes, etc. Donc elle rédige un rapport qui est un peu au vitriol, il faut bien le dire. C'est-à-dire que c'est qui est accablant pour Pierre Dubois, qui a 50 ans, elle en a 55. Qui ne fait pas l'affaire, Pierre Dubois, selon elle. Il ne pèse pas, il n'est pas assez autoritaire sur certaines choses, il y a du laisser-aller. Donc voilà, elle note tout ça, elle note dans ce rapport. Et c'est un rapport qui va faire mal, évidemment, à Pierre Dubois. Et on va le retrouver, ce rapport déchiré. Là aussi, il y a un geste de colère qui est patent. Il y a ce coup de papier dans le cœur, qui parle beaucoup déjà. Et puis, il y a ce rapport déchiré qui la parle encore.
Alors, suspect Pierre Dubois, suspect des jeunes qui trafiquent de la drogue à l'intérieur du collège.
Oui, ça c'est effectivement, ce sont des pistes qui sont étudiées par les enquêteurs.
Elle travaillait d'ailleurs sur un rapport aussi sur le trafic de drogue. Elle essayait de recenser les noms pour les donner à la police.
Elle était très en pointe sur cette question. C'était vraiment un combat qu'elle menait pour l'établissement, mais même pour le quartier. Et ça a été une piste légitime au départ, puisque évidemment, dans ces cas-là, vous vous faites des ennemis et des ennemis qui peuvent être dangereux.
Oui, il y a un dénommé Karim qui va apparaître comme un fil rouge d'ailleurs dans le dossier. On va le retrouver à plusieurs reprises, ce Karim, parce que elle l'a exclu de l'établissement. C'est quelqu'un qui venait vendre de la drogue dans l'enceinte de l'établissement. Elle voulait absolument faire le ménage. Et lui, ce Karim, c'est étonnant parce que le meurtre a lieu et puis Karim va aller voir sa sœur et il va lui dire, ce sont ses termes, il va lui dire j'ai zigouillé quelqu'un. Donc effectivement, les enquêteurs, ils vont s'intéresser. Mais ils vont s'apercevoir que Karim, il n'a peut-être pas toute sa tête, que ce qu'il raconte, ça ne cadre pas avec le crime en question. Donc, on va le laisser de côté. Mais c'est vrai qu'on a toujours, en arrière-plan, cette histoire de trafic de drogue qui existe.
Et à ce moment-là, on investigue beaucoup, parce que le fameux Pierre Dubois, sur qui on s'est évidemment penché, notamment avec ce rapport déchiré dans la poubelle, il va être entendu. Et puis on va dire, ça ne peut pas être Pierre Dubois. Comment ça se passe ?
Alors, ça, c'est un des points passionnants de ce dossier, ce sont ses aveux.
Il commence par avouer.
Puisqu'il est mis en garde à vue, et il avoue très vite. Vous connaissez l'excuse des gens qui avouent en garde à vue. Effectivement, en fin de deuxième journée, j'étais épuisé, j'avais été manipulé. Lui, il avoue très vite. Mais il avoue quelque chose qui ne colle pas à ce que les enquêteurs pensent savoir du crime. Il dit qu'il a étranglé Denise Descaves avec ses mains. Or, on la retrouve avec le cordon du téléphone autour du cou. Il y a déjà un indice fort dans le dossier qui montre qu'il y a un étranglement manuel, mais nouvelle erreur de ce médecin légiste. Et il dit, je l'ai tué vers midi 10, midi et quart.
Ça ne colle pas. Avec...
Or, encore une fois, deuxième erreur du médecin légiste, on est persuadé que c'est beaucoup plus tard. Et du coup, et je tiens à le dire, on est dans un dossier gravissime. Monsieur Dubois, quoi qu'il ait dit pendant toute l'affaire, a quand même bénéficié d'une véritable présomption d'innocence, parce qu'avouer un meurtre de cette gravité, en garde à vue, et être lâché. C'est pas à vous que je vais dire que ça n'arrive pas tous les jours.
Il faut dire qu'il dément. Dès sa sortie, en disant, on m'aurait dit de dire que j'avais tué Kennedy, j'étais en panique.
C'est son expression.
Il dément pas à n'importe quel moment, il dément quand on commence à s'intéresser à la piste Karim et les trafiquants de drogue.
Oui.
C'est là qu'il bouge un peu.
Oui, c'est là il va dire, il va se reprendre. Et effectivement, il y a ces histoires d'horaires qui sont très importantes parce que ça ne cadre pas avec l'histoire. Donc effectivement, il se reprend. Oui.
Et combien d'histoires où les horaires ont tout fait basculer ? L'affaire Dils, Patrick Dils, qui finalement, c'est pas lui. Et puis, il y a des témoins qui vont modifier leur déclaration en disant, non, finalement, on a entendu des cris, mais entre telle heure, et ça va emmener Patrick Dils devant une cour d'assises qui va le condamner. Et il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, on a fait entrer l'accusé sur Denise Descaves et l'affaire Dubois où vous avez participé, maître. Hein. Mais il y a tout un tas d'histoires comme ça où ce qu'on dit les légistes, ça devient une parole d'évangile et on ne peut plus en sortir. Alors qu'en fait, il peut y avoir des erreurs. Ce qu'on dit les légistes sur l'heure, mais ce qu'on dit aussi les légistes sur les conditions de la mort, la façon dont la personne a été tuée. Là aussi, c'est parole d'évangile. Et des avocats comme vous d'ailleurs, mais quand vous êtes de l'autre côté, quand vous défendez l'accusé, s'en servent en disant, attendez, vous êtes gentil, moi, le légiste m'a dit 13h13, ouais. C'est 13h13.
C'est fascinant,
c'est
parce
pas 35.
Qu'en fait, il est protégé par le médecin légiste, ben entre
oui,
guillemets, protégé,
évidemment.
Épargné
oui,
par
parce qu'à ce moment-là, il faut quand même le préciser, il est en route avec sa famille, ouais, ils partent dans la maison de campagne. Donc,
alibi ne peut pas être assis.
Le bureau de Madame Descaves et puis sur la route.
Comment ça se retourne, maître ?
Alors, ça va se retourner de plusieurs façons. D'abord, le juge d'instruction va quand même pas être totalement convaincu par ce rapport parce qu'on se rend très vite compte qu'il donne une fausse heure du crime, puisque encore une fois, au début de sa tranche horaire, tout le monde est déjà autour du cadavre, donc ça colle pas. Et donc la juge d'instruction, non, c'est un monsieur à l'époque, le juge d'instruction va envoyer le rapport d'expertise et les photos à deux grands experts, dont Monsieur Durigon, pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et là, ils vont faire une constatation, quand on s'y connaît en médecine légale, on le voit tout de suite, qui est la rupture, la fracture de l'os hyoïde.
Ce petit os qu'on a ici.
Ce tout petit os qui est ici, et dont on sait, c'est le béaba en médecine légale, qu'il est causé par l'étranglement manuel. Mm-hmm. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ouais. Si ça vous intéresse, je vous explique, mais voilà, on sait qu'un os hyoïde cassé, c'est au moins au début, un étranglement manuel. Et donc, ce qui conclut au fait qu'il a d'abord étranglé manuellement, puis attrapé le fil du téléphone, ce qui est très commun en criminologie. Hein, l'étranglement manuel est plus efficace que l'étranglement par lien, mais dans l'esprit du meurtrier, c'est pas le cas. Et puis surtout, c'est plus facile de tenir sa victime quand on a un lien que quand on doit la contenir avec les mains. Et donc là, il y a cette deuxième partie du rapport qui se casse la figure, et où on voit que avant l'étranglement au lien, il y a eu un étranglement manuel. Et c'est là que les aveux de Monsieur Dubois vont un peu revenir au centre de l'actualité du dossier.
L'étranglement manuel qui donc colle avec les premiers aveux, les horaires qui collent. Pierre Dubois, on va aller vite, va être jugé trois fois. Trois fois, il sera condamné pour le meurtre de Denise Descaves. Et pourtant, lui continue à dire qu'il est innocent. Ses soutiens continuent à dire on n'a pas tout étudié dans ce dossier. Est-ce que c'est vrai ?
Je suis mal placé pour le savoir. Je peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Le fait est, c'est qu'effectivement, il y a deux clans qui sont se dessiner très vite. Hein. Les pros du bois et puis les anti du bois. Effectivement, ça existe.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il va y avoir un travail de police scientifique incroyable, puisque Madame Dubois, quand elle est Madame Descaves, quand elle était tuée, elle porte une veste noire. Et quand on analyse sa veste, on va retrouver 213 fibres de tissu d'un autre tissu, pas celui de sa veste, dont 65 de couleur verte, qui correspondent à celles d'un jogging. Et on va faire une perquisition donc, chez M. Dubois. Il a un jogging vert, dont les fibres sont exactement les mêmes que celles retrouvées sur la veste de Madame Dubois. Ça veut dire qu'il y a eu contact physique entre eux. Comme il se déteste, on peut imaginer qu'il n'était pas son amant et qu'elle ne l'a pas pris dans ses bras. Donc, comment les fibres du survêtement vert de M. Dubois, qu'on voit d'ailleurs, le gardien dit qu'il a vu un homme en survêtement vert qui faisait des exercices au moment à peu près
sur la pelouse,
où Mme Dubois va mourir. Donc, c'est lui, c'est carré, non ?
Alors là-dessus, pardon maître, mais maître Pelletier, qui à l'époque défend Dubois, lui, il va dire, non, attendez, les fibres, c'est bien beau, mais c'est 65 fibres de jogging tout le monde porte ses fibres, elles sont internationales.
Un jogging de grande commune.
Il aurait pu être, elles auraient pu être propagées par.
L'argument n'a jamais porté contact. Pour une raison simple, c'est que le malheureux monsieur Dubois avait acheté ce jogging dans un supermarché et c'était donc un vêtement bas de gamme. Et bizarrement, j'ai appris dans ce dossier que les vêtements bas de gamme, c'est des textiles de récupération, vous savez, qui sont retraités. Et donc, vous avez un mélange effrayant à l'intérieur. Vous avez un peu de laine, vous avez un peu de synthétique, un peu de coton. Et là où
mais pas du
ça
vert
le
dans tous les
tue, non, mais là où ça le tue, c'est qu'on retrouve la même proportion de coton, de synthétique et de laine sur la veste de Madame Descaves que dans la composition de son pantalon de jogging. Donc, c'est vrai que mon confrère Pelletier s'est donné beaucoup de mal à l'époque pour dire, mais attendez, c'est un vêtement de supermarché, n'importe quel dealer du coin pouvait porter le même. C'était difficile à convaincre. Il aurait eu une marque de luxe sur lui, il aurait sans doute eu un seul type de fibre qui composait son vêtement, et là, c'était beaucoup moins probant.
Et ce jour-là, maître, vous avez été plus convaincant que maître Pelletier. On le salue, il nous a quittés, mais plus convaincant que lui, et c'était pas facile.
Et Pierre Dubois a été condamné à 3 reprises, on le disait. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes. Passionnant de se replonger dans cette affaire.